Bonjour David Thompson.
Bonjour.
Vous publiez aujourd'hui un livre aux éditions Le Seuil les Jours intitulé « Les revenants ». Ils étaient partis faire le djihad. Ils sont de retour en France. Et vous dites « Une majorité d'entre eux sont rentrés déçus de ce qu'ils ont vécu, mais pas repentis. Ils restent fidèles et profondément ancrés dans le djihadisme ». Premier constat assez inquiétant en fait.
Oui, c'est l'enseignement que je tire des entretiens que j'ai menés pendant 2 ans et demi avec une trentaine de djihadistes, hommes, femmes, qui sont revenus de Syrie et d'Irak, des Français. La plupart restent fidèles à leurs convictions. Ils sont déçus de la réalité qu'ils ont pu rencontrer sur place, mais certains conservent au minimum une radicalité religieuse, pas forcément tous violentes, mais radicalité religieuse au minimum, c'est-à-dire qu'ils vont se dire salafistes quiétistes et non plus djihadistes, ou alors ils vont considérer qu'ils sont désormais des apostats, tout en considérant que, oui, l'islam c'est bien ça, mais qu'ils l'ont vécu et qu'ils le rejettent. Donc c'est des gens qui sont encore dans une forme de radicalité, et je prends l'exemple juste d'une femme qui a passé un peu moins d'un an en Syrie, qui a vécu les pires injustices au sein de l'État islamique, et qui me dit aujourd'hui en France, alors qu'elle est en liberté, le plus beau jour de ma vie c'était le jour de l'attentat de Charlie Hebdo, et je rêve que des attentats soient encore commis par des femmes même au nom de l'État islamique. Donc c'est des gens qui reviennent déçus, mais pas repentis.
Alors, puisque vous parlez des femmes, venons-en justement à ce sujet. Au fond, il y a eu, sans doute, et vous en parlez, une erreur d'analyse sur le rôle des femmes qu'on a beaucoup présenté comme des victimes, et en fait, c'est pas du tout aussi simple que ça.
C'est ce que j'ai appelé un biais de genre quasiment sexiste qui partait du présupposé que forcément, puisque c'était des femmes dans ce djihadisme, donc cette conception extrêmement conservatrice de la religion, elles étaient forcément soumises à une forme de domination masculine, elles ne pouvaient plus avoir de libre arbitre, elles étaient forcément dans une soumission totale. Or, ce que j'ai constaté avec les entretiens que j'ai menés avec ces femmes, c'est que elles étaient dans une radicalité, une détermination, un fanatisme, au moins identique, sinon supérieur.
C'est parfois même elles qui entraînent les hommes.
Mais c'est ça, c'est que j'ai constaté que parfois, dans certains couples, la femme était moteur de la radicalisation et de la volonté de passage à l'acte terroriste.
Rapidement, sur les chiffres, combien on a une estimation précise, combien sont rentrés en France et parmi eux, quelle est la proportion de ceux qu'on considère comme dangereux?
Alors aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près, selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur français, sachant que on considère qu'il y a une marge d'erreur de 10 à 15% sur ces chiffres-là, on est sur à peu près 700 ressortissants français sur le sol en Syrie et en Irak actuellement. Chiffre auquel il faut ajouter un peu plus de 400 enfants, dont un tiers sont nés là-bas, de Français, en Syrie et en Irak. Que vont devenir ces enfants? Certains n'ont pas d'existence administrative. On n'imagine pas qu'au retour, on puisse les mettre dans des classes avec des enfants normaux, puisque certains ont été élevés pour tuer, ont été formés et ont exécuté des prisonniers. Les revenants, tels que je les appelle, on est sur un peu plus de 210 qui sont rentrés depuis 2012, et puis presque autant sont morts, donc ça veut dire qu'un cinquième sont revenus, un cinquième ont été tués.
Alors ce que vous expliquez, c'est qu'aujourd'hui l'État islamique est en phase de déclin sur le plan militaire sur place, dans une certaine mesure aussi sur le plan idéologique, l'EI séduit moins. Vous parlez, je vous cite, de la fin de l'euphorie et d'un retour, aujourd'hui en France notamment, à une forme de clandestinité pour les sympathisants, si je puis dire, de l'EI, et que ça n'est sans doute pas finalement une si bonne nouvelle que ça.
Pour les services de renseignement qui sont chargés de surveiller la menace que représente cette organisation, son retour à la clandestinité, qui est en train de s'opérer actuellement depuis le printemps dernier, est clairement une mauvaise nouvelle pour la simple et bonne raison que retour à la clandestinité veut dire surveillance beaucoup plus difficile, alors que jusqu'à maintenant, finalement, l'État islamique, c'était un livre ouvert. On avait des gens qui communiquaient sur des plateformes internet grand public, qui communiquaient en public. Pour vous donner un exemple, la plupart des assaillants du 13 novembre avaient dit sur leur page Facebook, leurs intentions, tout ce qu'ils avaient l'intention de faire et qu'ils ont fait ensuite dans les rues de Paris. Donc aujourd'hui, la clandestinité, oui, c'est plutôt une mauvaise nouvelle.
Alors, vous citez à ce propos une phrase prononcée par un responsable de l'État islamique après la perte d'une ville en Syrie et qui dit « Nous avons perdu une bataille, mais nous avons gagné une génération qui connaît son ennemi ».
Absolument. Et parfois, il y a du vrai dans cette propagande. Et là, effectivement, il y a clairement une part de réalité. Pourquoi ? Parce que, oui, l'État islamique est en train de perdre ce qui faisait son atout, sa carte de visite publicitaire, c'était ce contrôle territorial qui lui permettait de dire...
Cette expansion,
ouais. Hein, oui, cet élan de victoire pendant plusieurs années, qui permettait de dire à l'État islamique, nous sommes sur la voie prophétique, nous réalisons la prophétie musulmane énoncée depuis 14 siècles, nous sommes portés par la providence puisque rien nous arrête, c'est ça l'élan de victoire. Et puis ce contrôle territorial qui disait... Nous sommes un État. Nous avons créé l'utopie de cette cité idéale pour tous les musulmans. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, déclin de l'État islamique, mais pas déclin de la menace.
Sur la déradicalisation, c'est un sujet que vous abordez, qui est l'un des outils régulièrement brandis par le gouvernement, vous êtes extrêmement circonspect. Pour vous, ça ne marche pas et il y a des explications très rationnelles au fait que ça ne marche pas, en fait.
Alors, la première explication rationnelle au fait que ça ne marche pas, c'est que personne ne sait comment s'y prendre. C'est-à-dire qu'on réunit des jeunes dans une salle et on leur dit « mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» etc. On fait des sortes de réunions d'alcooliques anonymes, considérant qu'on est face à des gens qui sont dans une pathologie, qui sont victimes d'un engagement sectaire, alors qu'on a aussi, même s'il faut prendre en compte les pathologies psychiatriques également, on est face à des gens qui ont des convictions politiques et qui appliquent une littéralité des textes religieux qui existent et qu'ils n'inventent pas.
Et qui ont des convictions religieuses. Ça, vous insistez beaucoup sur ce point, sur le fait que c'est très souvent, et à dessein, minimisé, vous dites par exemple, souvent minimisé, la puissance des convictions religieuses réelles et du mythe des faveurs du martyr dans le déclenchement du passage à l'acte violent, ne peut être ignorée. Appréhender, dites-vous aussi, uniquement le djihadisme sous le prisme d'une pathologie mentale ou d'un enrôlement sectaire vise à permettre aux autorités de nier la rationalité de l'engagement individualiste politique et religieux. Au fond, ce que vous dénoncez là, c'est ce qu'on appelle le pas d'amalgame. Vous trouvez que c'est absurde et finalement contre-productif, cette vision des choses ?
C'est-à-dire qu'il y a un tabou absolu dans le discours médiatique et politique français, surtout à gauche, mais aussi à droite, c'est celui d'accepter, et ce tabou n'existe pas dans d'autres pays européens, c'est ça qui est
ça,
qui
c'est
surprenant.
Une différence,
c'est une particularité française, de considérer, d'accepter la part de religiosité qui est indéniable dans l'engagement djihadiste. Cette part de religiosité, elle s'exprime dans la croyance pour ceux qui vont se faire tuer absolue qu'ils font ça pour leur propre bien parce que ça va leur ouvrir grand les portes du paradis. Ils ont la conviction absolue, ils ont cette certitude. Et puis simplement, ils appliquent dans sa littéralité, effectivement, des textes. Ils se réfèrent à des hadiths
de la tradition musulmane. C'est ce que vous dites, vous dites les djihadistes n'inventent pas les textes de la tradition musulmane.
N'inventent pas ces textes-là. En fait, la différence, c'est que quand 90% des musulmans, 99% des musulmans vont leur dire ces textes-là, il faut les replacer dans le contexte des guerres médiévales, des premiers temps de l'islam. Ces textes-là, il faut les mettre dans le contexte actuel. On n'applique pas ça aujourd'hui comme on pouvait l'appliquer il y a 14 siècles. Eux disent non, la religion, c'est un corps entier. Le texte, on le prend en entier ou on ne le prend pas. Ils vont répondre aux autres musulmans. Vous choisissez les textes que vous voulez dans la religion, vous délaissez les autres, entre guillemets, pour plaire aux mécréants, pour rendre votre religion conforme à la République.
Vous heurtez, vous en parlez, à ce que vous appelez les djihadosceptiques. C'est quand vous exprimez ce genre d'idées que vous vous confrontez à eux ?
Oh, c'est bien pire que cela. C'est-à-dire que là, je fais référence au discours auquel je me suis heurté avant les attentats qui ont frappé la France, c'est-à-dire au début 2014, après un travail de plus de 2 ans avec des djihadistes tunisiens et français, qui m'avaient tout dit de leurs intentions terroristes, que j'avais écrit dans mon premier livre. Et quand j'ai expliqué ça sur les plateaux de télévision, avant les attentats, on m'a dit que je risquais de faire monter les populismes, que je risquais de justifier des politiques anti-musulmans. Il y avait un déni absolu. On était dans une logique, les gens partent comme lors de la guerre d'Espagne pour sauver la veuve et l'orphelin, ils n'ont pas d'intention terroriste contre la France. Évidemment, aujourd'hui, ça paraît étonnant de dire ça.
Merci David Thompson.
Merci.
Bonne journée.